Bonjour Jacques Rabal.
Bonjour.
Et on va prendre un peu l'air ce matin, une forme de respiration dans une actualité souvent sombre, en parlant d'un sujet qui, en principe, devrait intéresser tous ceux qui nous écoutent et qui nous comprennent, la francophonie. Vous êtes le tout nouveau secrétaire général de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Ça n'est pas, je crois, vous faire offense que de dire que ça n'est pas une organisation très connue. Est-ce que vous pouvez nous la situer, notamment par rapport à l'Organisation internationale de la francophonie, l'OIF, qui, elle, est très connue?
Je ne sais pas si l'OIF est très connue. En tous les cas, la francophonie n'est pas une idée qui est nouvelle. C'est une idée qui date déjà de 1967, avec le père fondateur, Léopold Sédar Senghor. Et il est vrai que dans cette constellation des institutions francophones, l'Assemblée parlementaire francophone, au regard de l'Office international de la francophonie, apparaît complètement en deçà. Alors qu'historiquement, c'est l'APF, le contenu politique, qui a favorisé, à travers la mise en œuvre d'une association, l'émergence de l'OIF. Tout ça pour dire qu'il y a nécessité à donner du corps à l'action francophone au-delà des différentes institutions. Et le premier élément, c'est travailler davantage ensemble, donner de la lisibilité pour montrer que la francophonie, qui date d'hier, qui n'est pas une idée nouvelle, peut retrouver un cap vers l'avenir. Déjà de la lisibilité, et c'est toute l'action que je souhaite mener en lien avec les acteurs. Vous avez cité l'OIF, l'AUF, et puis l'APF, mais aussi Libres Ensemble. J'étais à La Rochelle, et je peux vous garantir que l'idée francophone est une idée qui a vraiment aujourd'hui le vent en poupe.
C'est le cas de le dire quand vous parliez de La Rochelle.
Bien sûr, avec l'Hermione.
Voilà, là, ce fameux bateau qui a, je ne sais plus combien de mâts, 3 mâts, 4 mâts, enfin...
Je ne sais pas le nombre de mâts, en tout cas c'est la réplique complète de la frégate de Lafayette, et c'est vraiment une œuvre d'art, une œuvre de culture, mais qui vogue avec des ambitions très fortes pour la francophonie, la jeunesse et la Méditerranée.
Alors l'Assemblée parlementaire de la francophonie se fixe notamment pour objectif la promotion de la démocratie, c'est une belle ambition. Avec quels moyens le fait-elle et avec quels résultats? Parce que on reproche notamment à la francophonie d'être parfois un peu complaisante avec certains dirigeants africains.
Oui, vous dites beaucoup de choses là. C'est vrai que le cœur de métier de l'APF, initialement, c'était renforcer la démocratie. Et d'ailleurs, les pères fondateurs disaient que la francophonie doit être la vigie de la démocratie. Alors, de quelle manière? C'est d'abord venir en soutien des parlements adhérents à l'APF. Il y a 52 sections membres, 14 sections associées, 17 ont le statut d'observateur. Et donc, le soutien se passe de quelle façon? À travers un soutien de formation, un soutien logistique, à travers les nouvelles télécommunications, l'informatique, la Internet, etc. Donc, pour connecter l'ensemble des parlements, donner un cadre de bonne pratique, étant entendu qu'il n'y a pas à dupliquer les systèmes démocratiques d'un pays à un autre. Pour autant, vous avez soulevé une réflexion qui nous interpelle. À un moment, on parle du Burundi, à un moment, on parle du Congo, du Nigeria. Il y a des missions d'enquête qui doivent être déployées sur le terrain pour mieux prendre en compte. Et derrière tout ça, ça se fait aujourd'hui, mais il faut qu'il y ait une concertation à travers toutes les actions, les acteurs internationaux, que ce soit l'ONU, l'OTAN, mais aussi avec l'OIF, pour aboutir à des propositions, ce qui n'est jamais facile. Le dernier bureau à Paris l'a montré par rapport au Burundi, ou encore au Cambodge, ou encore bien évidemment au Congo, un débat de très grande qualité, et donc le sommet de Yerevan doit aboutir à des propositions. J'espère que ces propositions seront des propositions retenues par l'ensemble des acteurs pour faire pression sur ces exactions qui vont à l'encontre des droits de l'homme, qui vont à l'encontre de la liberté des peuples. Et donc là, la francophonie collectivement doit vraiment se faire entendre davantage.
Alors le président Emmanuel Macron, qui a fait de cette thématique de la francophonie sa grande cause nationale, va présenter un plan pour le développement du français, un grand plan d'ailleurs, est-il dit, un grand plan pour le développement du français et le plurilinguisme. Ce sera le 20 mars. Il va s'appuyer notamment sur une plateforme internet qui existe, qui s'appelle monidéepourlefrançais.fr, où chacun est invité à aller faire une proposition, se contenter de consulter celle des autres aussi éventuellement. À quoi faut-il s'attendre donc avec ce grand plan d'Emmanuel Macron ?
Mais écoutez, c'est une grande nouveauté. Emmanuel Macron, pendant sa campagne électorale, a été le seul candidat à mettre en avant l'idée de francophonie. Et là, il tourne le dos à ce passé colonial dans lequel certains voudraient le ramener.
Oui, parce que certains disent que la francophonie est une forme de prolongement du colonialisme.
Oui, c'est complètement aujourd'hui une autre perception, et je pense que Emmanuel Macron le formule d'une manière très explicite avec ce plan global, qu'il a d'ailleurs exprimé pour partie au départ de Villers-Cotterêts, où est née la langue française qui a permis à notre pays d'être rassemblé. Mais aussi, au-delà de cette annonce, il veut tracer un cap et donner du sens à l'action francophone. Vous avez parlé de plurilinguisme. Nous sommes en guerre contre aucune langue. Au contraire, la francophonie s'appuie sur le multilinguisme et même sur les langues régionales, à l'instar de ce que fait RFI. Et puis, il est le premier à parler de traduction. Donc, il y a une dimension globale, universelle, à travers cette sollicitation de tous les pays, francophones ou francophiles ou ailleurs, de pouvoir permettre de démontrer qu'on peut faire de cette langue une langue vivante, une langue qui est à l'offensive, pas seulement chez nous, elle ne nous appartient pas, elle n'appartient pas à la France, elle appartient à tous ces millions de locuteurs qui veulent l'utiliser, que ce soit d'un point de vue culturel, mais d'un point de vue de l'utilité. Moi, mon idée pour le français, je vais vous la donner, parce que j'étais hier dans un collège, qui est le collège François 1er de Villers-Cotterêts. Voilà, et ça fait floresse de la part des jeunes collégiens. Mon idée pour le français, si vous voulez, ce serait que dans le cadre de la semaine de la francophonie, déjà, d'une part, eh bien, tous les discours à l'Assemblée nationale puissent évacuer les mots en franglais ou en globiche. Ça veut pas dire ne pas exprimer dans une autre langue que le français, mais ça veut dire, franchement, favoriser la construction intellectuelle à travers un discours qui s'appuie sur le français. Ça veut pas dire qu'on ne doit pas créer des mots. Moi, je veux qu'on invente des mots. D'ailleurs, le président de la République, quand il parle de la francophonie, il est pour l'instauration d'un dictionnaire francophone et d'ouverture sur la francophonie, que ce soit à travers aussi le bac. Moi, je souhaiterais qu'il puisse y avoir un bac francophone et pas un bac français.
Oui. On sent que vous êtes passionné, mais on est arrivé au terme de notre entretien.
Merci à RFI, et un bel exemple de l'action culturelle francophone, de l'action utile aussi pour la francophonie. Et on doit s'inspirer de ce que vous faites.
Merci Jacques Rabal, bonne journée.